Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview. Pour présenter la fête des concerts de l'ADR qui aura lieu ce 18 mai à la cave David Botin à Barsac, nous sommes en présence de Margot Job Duval. Bonjour.
Bonjour.
Margot Job Duval, vous êtes éleveuse au vin et aussi maraîchère. Et également, vous traitez votre laine, je crois. Et ce sera un sujet qu'on abordera pendant cette émission. Mais avant tout, donc, il s'agit de présenter ce nouveau concert paysan du 18 mai. Avec comme invité, il y aura deux groupes de musique bien dansants. La Cale Dansée, qui proposera des voix polyphoniques en occitan. Et la petite équipe qui est du groove poétique et nomade. Et autour de ces deux concerts, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir justement ce samedi 18 mai à partir de 19h?
Et bien alors, comme d'habitude, nous à l'ADR, donc c'est une association de développement agricole, d'accompagnement des porteurs de projets pour l'installation, la transmission agricole, mais c'est aussi, c'est un but un peu plus large qui est de promouvoir, d'accompagner l'agriculture paysanne. Et nous, dans l'équipe, on considère que l'agriculture paysanne, c'est aussi une affaire de rencontres, de temps passé ensemble. En fait, c'est aussi une agriculture qui se vit dans la convivialité. Donc, les concerts qu'on propose, c'est des moments pour se retrouver entre collègues et non-collègues, pour échanger, discuter, boire un coup. Donc là, la bière sera la bière des gens sérieux qui sont installés à Cré. Il y aura du vin de David Botin, bien sûr. Et puis, on va cuisiner on va cuisiner une bonne soupe paysanne à partir des légumes de nos fermes, des crêpes. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir passer ensemble une soirée joyeuse, festive, d'avoir le temps de discuter, d'avoir le temps d'échanger sur notre métier, de se questionner et puis de partager de l'amitié.
L'ADR est créée en 2014, c'est dans une continuité de la Confédération paysanne, elle, qui est née en 1987, avec justement José Bové qui avait crevé les médias à ce moment-là. Qu'en est-il de cette évolution, justement, ce chemin qui a plus de 30 ans maintenant?
Oui, on se rapproche, en fait, pour le réseau des ADR au niveau national, on se rapproche plutôt des 40 ans. On est dans l'année des 40 ans. C'est juste dans la Drôme, on a été un petit peu plus tardif. En fait, il y a eu une première ADR qui a été créée à la fin des années 80 et puis qui s'est éloignée de l'objet initial qui était justement de garder en tête d'avoir vraiment cet objet de la défense de l'agriculture paysanne. Et du coup, en 2014, une petite équipe au sein de la Confédération paysanne a trouvé que ça manquait vraiment au panorama, au paysage, et a lancé ce projet de recréer une nouvelle ADR. Donc, on a bientôt 10 ans, la nouvelle ADR. On a une petite équipe assez solide, de jeunes et moins jeunes paysans, de retraités, en tout cas, une équipe de paysans et paysannes investis dans l'idée que c'est en partageant à plusieurs, en réfléchissant ensemble, collectivement, qu'on fait avancer les choses. Et depuis ces 10 ans, on a toujours cheminé en lien avec la Confédération paysanne qui a énormément soutenu financièrement, avec de l'énergie militante, la création du projet de l'ADR, qui aujourd'hui encore continue à la soutenir, qui a apporté des moyens substantiels pour toute l'année 2023, mettre en place une commission pour réfléchir à l'émergence vraiment d'un travail sur la transmission des fermes, voilà, qui a mis à disposition du temps salarié, de l'énergie. Du coup, il y a un cheminement qui se fait, en tout cas, qui reste fidèle depuis 10 ans aux objectifs annoncés par la Conf, quoi.
La DR, avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse spécifier ce qu'est le terme paysan, ce qu'il signifie, et peut-être le démarquer aussi de son utilisation par d'autres secteurs agricoles qui s'en accaparent, et peut-être au point de tromper aussi cette notion de paysan.
C'est drôle, hein, parce que c'est un terme... c'est un terme qui, il y a quelques années encore, enfin il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment une manière de dénigrer les gens, de les traiter de paysans, et notamment pour ce qu'on appelle, entre guillemets, la profession agricole, enfin au niveau des médias nationaux, quand on parle de la profession agricole, c'est toujours la FNSEA, en fait, ce syndicat majoritaire, répugnait vraiment à utiliser ce terme comme si c'était le truc le plus médiocre et minable, mais aujourd'hui, ils se revendiquent tous d'être paysans, parce que ça sonne bien. En fait, nous, à travers, il y a eu quand même un travail de fond et fait par des paysans et paysannes du réseau de la Confédération paysanne et du réseau national des ADR pour déterminer un petit peu plus ce qu'on entend par agriculture paysanne. En fait, ce n'est pas une coquille creuse. C'est l'idée, ce n'est pas non plus un label. En fait, il ne s'agit pas d'avoir des normes très strictes autour de tant d'hectares, tel nombre de vaches, tant d'espèces animales représentées. En fait, c'est plus une manière de regarder les fermes dans la globalité et de voir le cheminement en fait, qui est pris par ces fermes. L'agriculture paysanne, elle s'articule autour de quelques notions importantes qui sont l'autonomie. Donc, à la fois, l'idée de l'autonomie, c'est de se dire que justement, on n'est pas dans des modèles intégrés où on dépendrait complètement de l'amont pour la fourniture des intrants et de l'aval pour la commercialisation. On a aussi une autonomie sur nos fermes, normalement, on trouve à peu près, globalement, les ressources pour le bétail. On trouve ce qui va permettre de faire fonctionner la ferme. Mais c'est aussi l'autonomie de pensée et l'autonomie financière. En fait, nous, on pense que c'est une aberration d'atteindre de tels niveaux d'endettement dans les fermes. Et puis que l'autonomie de pensée, c'est être libre de faire des choix. Du coup, on défend... le fait que les paysans et paysannes fassent eux-mêmes leur comptabilité, par exemple, pour avoir une autonomie de gestion. Enfin, voilà, c'est toute cette question de l'autonomie. Il y a le travail avec la nature, bien évidemment. Donc, on n'est pas... on ne revendique pas forcément la labellisation bio, mais, en fait, dans l'idée de l'agriculture paysanne, c'est profondément ancré l'idée qu'on travaille avec les cycles de la nature. On ne fait pas pousser des tomates en hiver dans des serres chauffées. Ça, c'est une aberration d'un point de vue du cycle naturel. On va réfléchir à travailler dans le sens de la nature, à respecter les cycles naturels, à respecter l'harmonie globale de la nature. On a aussi un thème important qui est la répartition des richesses. Donc, c'est les richesses qui permettent la production. Donc, c'est les facteurs de production, ce qu'on appelle... la terre, l'eau, en fait, ça, c'est pas des choses qu'on doit chercher à s'accaparer le plus possible. C'est au contraire, on doit réfléchir à un partage juste. Et puis après, sur le marché, l'idée, c'est pas d'avoir le monopole du picodon sur le marché de lit. C'est plutôt de se dire, on est plusieurs producteurs, on va trouver des moyens d'entente. Alors, je vais oublier sûrement d'autres aspects parce que ils me reviennent pas tout de suite. Mais c'est pour dire qu'on a déterminé quelques axes importants de l'agriculture paysanne et qu'en fait, on réfléchit, nous, en tant que paysans et paysannes, à tendre vers, à être, à avoir un cheminement qui nous amène à essayer d'être au plus près de ces objectifs.
La paysannerie, en quelque sorte, s'adapte aussi au paysage.
Ben oui, c'est quand même... On a envie de figer toujours le monde agricole dans une espèce de ruralité immuable, mais pas du tout. En fait, c'est ça qui est drôle, parce qu'en plus, aujourd'hui, le panorama des installations, il a complètement évolué par rapport à il y a 50 ans. La part des reprises familiales a diminué drastiquement. En fait, le renouvellement des générations en agriculture, il se fait essentiellement... Enfin, ça devient majoritaire l'arrivée de personnes qui ne sont pas issues du monde agricole ou qui en sont issues, mais qui ne reprennent pas la ferme familiale, en fait, qui reviennent à la terre après un autre chemin, une reconversion professionnelle, qui vont s'installer, mais pas sur la ferme de la famille, à côté, ailleurs, sur un autre territoire. Et donc, c'est bien encore une évolution. Enfin, c'est bien le signe que le monde paysan est... est toujours ancrée dans des dynamiques assez riches.
D'autres personnes que j'ai reçues récemment qui traitent justement du maraîchage ou d'autres types d'agriculture paysanne s'en sentent heureux. C'est le cas pour vous ?
Ah bah oui, moi j'ai de la chance, hein. Je fais le meilleur métier qui soit. Pas besoin d'aller dans une salle de sport après. Je suis au grand air, du coup pas besoin d'auto-bronzant. Et puis en plus, je crois que j'ai pas trop à me poser de questions sur le sens de mon travail. Donc non, c'est pas mal. Hein.
Il y a également la DEAR. Qu'est-ce qu'on peut désigner ? C'est une association
Oui, c'est une association loi 1901. En fait, les ADR, elles ont souvent deux missions qu'elles mènent conjointement. Avec chaque ADR est libre d'accorder plus ou moins d'importance à chacune des deux missions. Donc la première, c'est toujours la promotion, la défense de l'agriculture paysanne. Et la première mission, c'est l'accompagnement des porteurs de projets pour des installations agricoles ou des transmissions. Et la deuxième mission, c'est d'animer en fait des groupes de réflexion ou en tout cas des groupes de travail sur le cheminement vers une agriculture plus paysanne. Nous, à la DEAR de la Drôme, jusqu'à présent, on s'était essentiellement concentré sur l'accompagnement à l'installation. Parce que la Drôme, c'est quand même un vivier de porteurs de projets sur des projets alternatifs. Enfin, c'est un territoire assez particulier en France en termes de... c'est un territoire qui est extrêmement attractif pour beaucoup de personnes en reconversion professionnelle qui ont envie de s'installer, beaucoup de néo-ruraux. Donc, on a une énorme demande. Après, on a aussi, depuis peu de temps, ça fait un an, on réfléchit énormément aussi à se dire comment on travaille aussi la question de la transmission agricole. Parce que en fait, c'est bien sympa d'installer des jeunes sur des créations de projets. Mais en fait, il y a quand même un enjeu majeur aujourd'hui. Là, d'ici 10 ans, la moitié de la population agricole va être à la retraite. Alors, ça se sait, hein, on ne prend pas toujours sa retraite à 65 ans dans le monde agricole. Mais quand même, en fait, la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans, voire plus de 55 ans. Donc, c'est un vrai sujet. Et du coup, on ne peut plus imaginer que le renouvellement des générations va se faire juste par la création de nouvelles fermes. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on se pose la question de comment on accompagne des transmissions de fermes, des fermes qui se sont, pour la plupart, beaucoup capitalisées. Donc, qui sont assez grandes et qui ne répondent pas toujours aux attentes des porteurs de projets. Donc, il faut arriver à trouver la manière d'aider les agriculteurs arrivant à la retraite à rencontrer des jeunes qui vont leur sembler peut-être au départ très différents de ce qu'ils sont eux, à trouver le moyen de s'entendre sur comment on assure ces transmissions de fermes. Est-ce que parfois il faut créer des structures collectives pour pouvoir reprendre à plusieurs une ferme qui était tenue par une seule personne ? Enfin voilà, on est sur ce dossier-là en 2024, enfin depuis 2023, et je pense qu'il va nous prendre quelques années.
Il y a aussi cette difficulté de pouvoir trouver des terres également, pour trouver une activité. Hein. Le Diwa notamment est très difficile à pouvoir fournir ce type de terrain.
Mais oui, et ce qui est très complexe, c'est que c'est paradoxal. En parallèle de ça, en fait, il y a des terres qui partent à l'abandon, notamment en Clairette, parce qu'on est dans une situation de crise assez dramatique. Que les agriculteurs qui vont arriver à la retraite, en fait, ils vont libérer du foncier. Mais tout ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. En fait, c'est pas parce que des terres partent, c'est pas parce que des hectares de clairettes sont abandonnés qu'ils sont disponibles. Et c'est là aussi où nous, à la DEAR, on considère que les choses, elles se gèrent pas juste de gré à gré entre un paysan et un jeune porteur de projet. Tout ça, ça relève aussi de politiques publiques et d'une certaine orientation du modèle agricole qu'on veut mettre en place. Et on sait que les politiques publiques, quand elles sont décidées avec enthousiasme, ou en tout cas vigueur, et qu'elles sont assorties de moyens conséquents, c'est des politiques qui sont hyper efficaces. Ça marche. Qu'on voit les lois d'orientation agricole de 62-63... où la décision, ça avait été on agrandit les fermes, on restructure, on défonce les haies, on fait du remembrement, on capitalise sur les fermes, on crée en fait une nouvelle classe sociale de paysans agriculteurs engagés dans le marché. Oh ben, en 10 ans, la révolution, elle était faite, quoi. Du coup, aujourd'hui, c'est ce qui manque. C'est des vraies orientations politiques en faveur de la transmission. Nous, on va toujours pouvoir accompagner, mais s'il n'y a pas de politique publique qui vienne vraiment insuffler un changement de direction, le travail va être plus dur.
Politique publique, c'est celle qui émane de l'État ou alors il y a des collectivités aussi qui peuvent agir dans ce sens ? Je parle de la région ou
oui.
du département. Hein. C'est une question peut-être comique.
Mais c'est une vraie question. En fait, il y a le niveau de l'État, bien sûr, qui est fondamental. Mais ensuite, chaque échelon a toujours un petit peu de liberté. Et c'est aussi c'est dans un sens ou dans un autre. Là, en particulier aujourd'hui, la région Auvergne-Rhône-Alpes, telle qu'elle est dirigée, ben, elle ne va pas vraiment dans le sens de ce que nous, on attendrait. D'ailleurs, ça fait 2 ans qu'on ferraille pas mal avec la région et que, voilà, on a eu beaucoup de financements qui ont été diminués, voire tout simplement supprimés. Bon, après, c'est là où on a réalisé qu'on était quand même assez costaud, puisque malgré tout, on s'en sort. Et ensuite, à chaque niveau, voilà, au niveau plus des échelons plus locaux, les communautés de communes, elles ont aussi une marge de manœuvre. Ça, c'est important de le souligner parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. Alors certes, ce que fait une communauté de communes, si au-dessus, la région et l'État ont des politiques qui sont complètement différentes, ça restera limité dans les effets. Mais en tout cas, c'est indispensable de voir tout ce qui peut être fait à chaque échelon, quoi. Après, c'est trop facile comme la région l'avait fait avec nous, quoi, de se cacher toujours derrière l'Europe, comme s'il n'y avait que l'Europe qui décidait de quoi que ce soit. En fait, chaque échelon a quand même une autonomie de fonctionnement à saisir. Et en plus, c'est à travers la mise en place de politiques publiques audacieuses, courageuses au niveau local, que je pense que ça peut donner des idées à d'autres collectivités et puis ensuite à des niveaux supérieurs.
Je reviens un peu sur les ADR en France. Qu'est-ce qui leur permet d'être présents et qu'est-ce qui fait leur force même ?
Ah ben c'est le réseau. C'est le réseau paysan. En fait, donc nous, on a bien sûr, dans toutes les ADR, elles fonctionnent avec une équipe de salariés. Alors nous, on est la plus petite ADR d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a 3 salariés, 2 qui ont un poste d'animateur et d'accompagnant à l'installation, à la transmission, et puis une qui a un poste plus administratif. Mais au total, on fait moins. Enfin, le total cumulé des heures de nos salariés, c'est moins de 2,5 ETP, donc ce n'est pas énorme. Pour autant, ils abattent un boulot incroyable, parce que voilà, c'est des personnes. En général, on a quand même la chance d'avoir des équipes salariées qui sont assez incroyable, assez hyper dynamique, très compétente. Et après, ce qui fait les forces des ADR, c'est le réseau paysan. Clairement, quoi. C'est le fait d'avoir une équipe de paysans investis, qui prend des décisions, qui connaît les dossiers, qui continue à se former aussi au fil du temps. En fait, nous, on est présents sur les formations organisées par nos salariés. Et du coup, on gagne en compétences, on est présent dans les interventions, on est présent toujours quand il y a des rencontres avec des politiques ou avec des techniciens. Voilà, quand il y a l'élaboration de projets, que ce soit avec des collectivités territoriales ou avec le département, en fait, les paysans impliqués dans l'assaut sont toujours là, quoi. Et puis après, on sait qu'on peut compter sur un grand réseau de paysans qui ne sont pas forcément impliqués au quotidien dans l'assaut, mais qui sont là, en fait, qui vont ouvrir leur ferme pour un accueil de porteurs de projets, qui vont venir témoigner lors d'une formation. Et c'est tout ça qui fait la richesse.
Au niveau de la Drôme, donc, il y a à peu près une quinzaine d'acteurs qui opèrent, si on va sur votre site de la DR Drôme. Ils sont, comme vous, certains en profession, surtout Ovine, et peut-être d'autres qui sont plus en activité, mais qui ont toujours cette approche de la paysannerie.
Oui, c'est
et
ça.
Et qui ont leur expérience aussi pour soutenir. D'ailleurs, la fonction de l'ADR, c'est aussi la mission de l'ADR aussi, c'est la proposition d'installer, d'aider à l'installation. Et pour cela, vous proposez diverses formations ou d'informations accessibles. Ça, c'est un peu le rôle des membres de l'ADR.
Oui, alors ben, nous, le CA de l'ADR, le conseil d'administration, du coup, on va être présent. Donc, c'est nous qui donnons les orientations politiques. Mais comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a une vraie implication des membres du CA dans les actions menées par l'ADR, en fait, et avec une participation aux différents événements et aux formations. Donc, c'est simple. Et c'est ça ce que vous releviez là, c'est qu'il y a à la fois des paysans et des paysannes en activité. Donc, nous, on est dans le cœur du sujet, c'est notre quotidien, la ferme, de la gérer, d'accueillir des stagiaires, de réfléchir aux évolutions de la ferme. Voilà, donc on peut témoigner aussi de ce quotidien. Dans le CA, il y a aussi des porteurs de projets qui sont membres du CA. Donc des personnes qui sont dans tout ce parcours de réflexion sur leur installation, qui se cassent les dents sur des fermes qui les ont fait rêver, puis finalement... qui sont plus à la vente, qui sont plus à la location, qui vont aller faire une formation en compta pour mieux appréhender la suite, qui vont commencer à réfléchir sur leurs chiffres. Et du coup, c'est super qu'eux soient aussi dans le CA de l'ADR parce que ça apporte une fraîcheur. En fait, nous, ça nous permet de vraiment questionner nos méthodes de travail sur l'accompagnement. Dans ceux qui sont installés, paysans et paysannes, il y en a qui sont plus proches de l'installation, donc ils se rappellent, ils ont encore les idées toutes fraîches, enfin les souvenirs frais de ce que c'était, ces années parfois de galère, mais d'intense de stimulation hyper intense. Et puis il y en a d'autres qui sont plus dans le train-train, voilà, en vitesse de croisière, d'autres qui commencent petit à petit à entrevoir un peu la retraite et du coup qui vont se poser ces questions, de se dire mais que va devenir ma ferme, comment je la fais évoluer sur les 10 prochaines années pour qu'elle soit transmissible. Est-ce qu'elle va séduire un de mes enfants ou est-ce qu'en fait, il faut que je pense à une forme qui puisse aussi permettre l'intégration d'autres, de personnes autres qui ne seraient pas de la famille. Et puis, il y a quelques retraités dans l'équipe dont, qui ont déjà fait leur carrière, qui ont passé cette étape de la transmission et qui, du coup, ont plein de temps. Alors ça, c'est très précieux.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA,
la radio du DIWA.
107.5,
101.7
FM.
Il y a plusieurs rendez-vous qui sont opérés par l'ADR auprès du public. Je peux en énumérer quelques-uns qui seront celui du 27 juin avec une projection débat à la ferme sur la théorie du boxeur, un film qui a été très, très, très vu sur le DIWA notamment et en Drôme, j'imagine. Et il y a aussi le 4 juin une visite de ferme s'installer en collectif à Tout et à Léa. Et puis il y a aussi un café installation transmission sur le travailler en couple, ça sera le 9 juillet, ça sera à Pont-de-Barret. Enfin, toutes ces infos, on peut les trouver sur votre site. Il y a aussi une visite de ferme ou alors sur le thème de la transmission également, des rencontres autour de ces sujets. Est-ce que c'est aussi en quelque sorte la recherche de l'autonomie pour l'ADR, de cette indépendance peut-être vis-à-vis des groupes bancaires ou de politiques agricoles qui ne vous conviennent pas. Est-ce qu'il y a cette recherche aussi d'autonomie ?
Ah ben, complètement. Donc, nous, on considère qu'on remplit une mission de service public qui n'est pas assumée correctement et même dans son intégralité par l'État. Donc, on considère qu'on est tout à fait légitime pour toucher des subventions publiques. Donc, on en demande. On a le droit à certaines, pas à toutes. Et à côté de ça, on est quand même conscient aussi que globalement, la politique publique mise en place par le gouvernement depuis plusieurs décennies concernant l'agriculture, ce n'est pas celle qui nous convient, quoi, globalement. Donc, on n'a pas envie non plus d'être uniquement un relais de l'État, enfin de pallier les défaillances de l'État sur les questions agricoles. Et on considère que en ayant une certaine autonomie financière, on s'assure aussi de notre autonomie de pensée. Donc l'autonomie financière, on l'a à travers des concerts, comme celui qu'on organise le 18 mai. Pour nous, il y a aussi l'enjeu de participer un peu voilà, assurer nos propres fonds. Il y a les adhésions des membres de l'association, enfin des personnes qui adhèrent à l'association. Et puis ensuite, il y a les prestations. Enfin, en tout cas, le travail, il y a une partie du travail qu'on réalise qui peut être, enfin, qui parfois est reconnue et qui peut ramener aussi des revenus à la DR. Mais c'est important, l'autonomie, parce que c'est ça qui nous garantit l'autonomie de pensée.
Et peut-être avec ces dernières réglementations ou du moins déréglementations gouvernementales sur l'écologie, est-ce que c'est aussi une source de réflexion et de discussion, d'échange au sein de la DR actuellement ?
Alors ça a été beaucoup plus un débat syndical que nous au sein de l'association. Ce qui est sûr, c'est que c'était assez surprenant en fait ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu l'expression d'un désarroi profond d'une grande partie des paysans et paysannes en France qui s'entendent complètement. En fait, c'est quand même pas viable comme métier à long terme. En fait, c'est un métier qui est quand même exigeant en travail, pour lequel on passe des heures, enfin voilà, beaucoup beaucoup d'heures. Beaucoup de modèles de modèles de ferme aussi ont été fortement incités à capitaliser énormément. Donc ça, on ne capitalise pas. En fait, quand on capitalise, c'est qu'on s'endette. Donc ils sont face à des niveaux d'endettement énormes. Et nous, on le voit peut-être moins dans le Diois parce que c'est moins une réalité prégnante. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de fermes en France qui ne sont pas complètement maîtres de leur production, enfin de leurs décisions, qui sont dans des systèmes intégrés, qui sont dans des circuits longs, dont en fait les prix de vente dépendent du bon vouloir des coopératives auxquelles ils sont reliés et sur lesquelles ils n'ont plus aucune prise. Donc le désarroi profond, il s'entend complètement. Après, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que les causes, en fait... Analyser les causes de notre désarroi, ça demande toujours de se poser, de réfléchir. Ça demande un effort énorme qu'il est difficile à faire, cet effort. Donc, le plus simple, c'est de reporter, enfin, d'identifier des causes toutes simples qu'on résoudrait d'un coup de baguette magique, comme, voilà, il y aurait trop de normes. C'est ça qui rendrait les paysans malheureux. Bon, je pense qu'à travers cette crise, il y a beaucoup d'agriculteurs et agricultrices qui ont réalisé que peut-être, dans le fond, le message porté par le syndicat majoritaire qui se veut représentatif de tout le monde, c'est un peu de la fumisterie. Mais voilà, au final, c'est ça qui est hyper triste dans notre société, c'est qu'il a suffi que la FNSEA négocie avec l'État, le programme éco-phyto, c'était pas si important... voilà, toute la réglementation, les réglementations sur la biodiversité, c'était pas si important. Et hop, 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 c'est réglé. Soi-disant, la crise est finie. En fait, elle est juste... on l'a juste recouverte d'une petite couche de terre, quoi.
Voilà, un petit pansement. Vous-même, Margot, vous êtes éleveuse au vin à Glandage. Vous travaillez l'ovin pour quelle destination principalement ?
Ah, mais la brebis, c'est une bête incroyable parce que tout est utile. Donc, on vend la viande de nos moutons, on a le fumier pour nos cultures et la production qu'on valorise, qui d'un point de vue économique et d'un point de vue de l'engagement en temps, en énergie, qui est la plus importante sur notre troupeau, c'est la laine. Nous, on valorise l'intégralité de la laine de notre troupeau. En fait, au moment de la tonte, on trie toutes les toisons et on va les classer en différentes catégories pour des usages. En fait, on va valoriser toutes nos toisons en fil à tricoter ou fil à tisser. Mais en fonction des caractéristiques de chaque toison, on va le faire à la laine un chemin particulier, quoi.
Voilà, il y a deux ans, lors de ces rencontres organisées autour de la laine, vous étiez intervenu justement pour expliquer un peu ce processus de la laine, de ses destinations aussi, et peut-être de sa valeur en fonction de qui elle dépendait à ce moment-là. Celui de l'éleveur, la laine n'a aucune valeur.
Ben oui, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable depuis... maintenant, ça fait un peu plus de 40 ans. En fait, la France... Enfin, c'est un peu vague de dire la France, mais en gros, ça a été quand même une décision un peu concertée avec les représentants de l'élevage ovin, les industriels, de se dire que, en fait, c'était pas très stratégique de garder une expertise lainière en France. Et hop, les usines ont été abandonnées pour quasi les 9 dixièmes. Le matériel a été vendu en Chine. Le dernier expert lainier français qui était rattaché, il me semble que c'était à l'INRA, il a été remercié et voilà, affaire classée. Donc depuis 40 ans, en fait, la qualité de la laine en France s'est complètement dégradée. Il n'y a plus aucun accompagnement technique, plus aucune formation, que ce soit dans la formation initiale pour les agriculteurs ou pour tous ceux qui deviennent techniciens, ingénieurs, agronomes. En fait, la laine devient un non-sujet, ça n'existe plus. Jusqu'à ce qu'il y ait quelques années... En fait, suite à la crise du Covid, cette situation, elle pouvait perdurer un certain temps parce que bon an, mal an, il y avait quand même des négociants qui sillonnaient les fermes en France et qui rachetaient la laine des éleveurs à un prix assez médiocre, mais qui est quand même lié à la qualité de la laine. En fait, la laine, maintenant, elle est tondue en bergerie, elle est souillée de matière, de débris végétaux. Donc, pour être valorisée, en fait, il faut la carboniser, on l'envoie dans... De toute façon, pour la valoriser, on est obligé de la dégrader même. Et voilà, ces négociants arrivaient à la vendre à vil prix en Chine et elle servait dans les assemblages de... Hop, ça permettait de rajouter du volume de matière, d'une matière pas très, très... pas d'une grande qualité, mais bon, ça fait un peu de volume. Et puis, avec la crise du Covid, la fermeture des frontières temporaires, en fait, je pense que les industriels chinois ont réalisé que les 14 000 tonnes de laine qu'ils achetaient en France, finalement, ils pouvaient vraiment s'en passer, surtout vu la qualité, quoi. Et donc, ils ont arrêté d'en acheter. Donc, depuis quelques années, en fait, les négociants ont arrêté de venir ramasser la laine en France, puisqu'ils n'avaient plus personne à qui la vendre. Et donc, les stocks de laine s'accumulent en France. Alors, vous imaginez quelqu'un qui a un troupeau de 500 brebis, qui va récolter à peu près 2 à 3 kilos, enfin, dont les toisons de ses brebis font à peu près 2 à 3 kilos, ben, ça fait vite du volume. Hein. Si pendant 3 ans, il est obligé de stocker ça sous son hangar, ça fait vraiment une quantité de laine impressionnante. Donc, le gouvernement français a saisi qu'il y avait un problème, en fait, qui est juste... c'est pas un problème qui arrive tout d'un coup. C'est plus que c'était une situation complètement bancale qui existait depuis 40 ans, mais qui surgit comme un problème de manière conjoncturelle parce que tout d'un coup, en fait, on n'a plus d'acheteurs pour cette production de piètre qualité. On aurait pu prendre un tout autre chemin. En Angleterre, par exemple... S'il y a bien quelque chose qui a été conservé dans un pays aussi libéral que l'Angleterre, c'est la laine. Donc les éleveurs anglais, ils vendent tous leur laine à une structure étatique qui va leur rémunérer en fonction de la qualité parce qu'elle va être retriée, évaluée. Et ensuite, voilà, elle va être rassemblée en lots homogènes et ça peut être vendu sur le marché international ou transformé directement en Angleterre dans des usines qui ont été conservées. Bon, en France, on n'a plus rien de tout ça. Mais du coup, le gouvernement français a réalisé qu'il y avait un pépin. Il a missionné une commission d'enquête, là, à travers le CGAAER, qui est Commission Générale pour l'Agriculture, l'Alimentation et les Espaces Ruraux, je pense. Du coup, c'est des experts qui viennent faire des enquêtes et donner éventuellement des préconisations. Donc, ils ont rendu un rapport en début juillet 2023 qui faisait état, justement, de la situation un peu dramatique de la laine en France. Bon, il faut reconnaître qu'ils ont été un peu légers sur leur analyse. En fait, ils ont interrogé très peu d'acteurs de terrain. Par exemple, ils n'ont pas interrogé l'association Atelier Laine d'Europe, qui est la seule structure qui a tenu à bras-le-corps la filière laine pendant 40 ans, qui a maintenu une expertise lainière. Mais voilà, elle a un statut associatif. Ça paraissait peut-être assez négligeable. Ils ont interrogé très peu d'éleveurs. À part deux éleveurs qui sont des gros bonnets de la FNO, de la Fédération Nationale Ovine, qui n'est donc que la section ovine de la FNSEA. Et puis, ils ont interrogé des industriels, du compostage, du pellet, voilà, pour voir quels usages pourraient être faits de cette laine de mauvaise qualité. Et ensuite, mission a été confiée à un organisme qui s'appelle Tricolore de préparer la feuille de route nationale pour la laine à partir... dont la synthèse va être rendue le 16 mai prochain. Alors, c'est toujours étrange, parce qu'au lieu de se poser la question de... Tiens, mais en fait, jusque dans 1980, il y avait des structures industrielles en France, il y avait des usages pour la laine, parce qu'il y avait de la qualité qui était reconnue. Alors certes, ce n'est pas, pas de la laine australienne à 17 microns qui fait du fil hyper fin, mais en fait, il y avait de la laine des races qui sont parfaitement adaptées à la literie, d'autres qui sont adaptées pour faire du fil fin, du fil grossier, des laines qui ont des couleurs. Enfin, il y avait quand même un potentiel incroyable en France jusque dans les années 80. Plutôt que de se poser la question de pourquoi et comment ce potentiel s'est dégradé, quels sont les savoirs qu'on perd, et en fait, quels sont les savoirs qu'on pourrait retrouver ou en tout cas créer à nouveau, ben, ils sont partis globalement sur des préconisations un peu fumeuses de se dire ben, on va faire une laverie post-industrielle du 21e siècle et puis on va faire des pellets d'engrais à partir de laine. Quoi.
Ouais. Vous-même, donc, avez décidé de valoriser votre laine. Quelles sont les étapes pour produire cet effet, d'ailleurs ?
Ah, c'est passionnant parce que c'est assez complexe. Donc, il y a une première étape pour la laine de brebis qui est toujours le lavage. En fait, d'autant plus en mérinos. Moi, j'ai des brebis mérinos. Donc, c'est une laine très suinteuse. Donc, il faut la débarrasser de tout ce gras qui assure la protection de l'animal, mais dont on a un peu moins besoin au moment où on veut transformer la laine. Il faut aussi retirer tous les débris, les crottes, en fait, tout ce qui accompagne les toisons et qui peut se dégrader à travers le lavage. Alors pour ça, il y a deux possibilités. Il y a une usine de lavage en fait, qui existe encore en France, à Saugue, en Haute-Loire. C'est une usine qui fonctionne avec des machines dont certaines datent du 19e siècle. Mais rien n'a changé dans le processus. Hein. Même dans les usines modernes, en fait, c'est le même principe. En fait, on va faire décanter les matières organiques petit à petit. Et puis, on va brasser la laine. Et en fait, avec du carbonate de soude, en fait, on va pouvoir dissoudre les graisses. Donc, ensuite, à la suite de ça, la laine est propre. Et elle peut partir dans les circuits de transformation. Donc, moi, je fais faire deux transformations différentes. Les laines les toisons les plus fines, avec les mèches les plus longues, qui sont bien résistantes, ça, je les envoie avec un collectif d'éleveurs. On part en Italie, dans le canton de Biella, dans le Piémont italien, où ils ont gardé tout le savoir-faire de la fibre de luxe. En fait, eux, ils ont fait le pari en Italie de se dire on garde, on garde tout l'appareil industriel pour le luxe. Et donc, on va transformer des fibres de haute qualité. Donc voilà, c'est là qu'arrive le cachemire, le mohair, en fait l'alpaga. Tout ça, ça arrive à Biella et c'est transformé dans les usines de Biella ou la laine mérinos d'Australie très fine. Et donc là, nous, avec, dans cette usine, on peut faire un fil. On arrive à faire ce qu'on appelle un fil peigné. Donc c'est un processus particulier, comme quand on se peigne les cheveux, qui permet d'obtenir un fil très fin, très régulier. Et puis les autres laines, les laines un petit peu plus courtes, un tout petit peu plus, plus grossières, mais qui restent fines quand même, parce que c'est du mérinos, ou les laines de couleur, ça, je fais faire un autre type de fil qu'on appelle le fil cardé, et celui-là, je le fais faire intégralement en France. Donc dans cette laverie de Saugue, en Haute-Loire. Et puis après, la filature, elle se trouve pas très loin, elle est à Saint-Firmin, en Val-Gaudemar, donc juste dans les Hautes-Alpes, dans le département voisin. Et là, voilà, c'est un autre. Enfin, c'est à peu près. Globalement, l'idée, c'est la même. C'est on va séparer les fibres, les étirer et les retordre ensemble pour créer un fil et faire un fil continu, quoi. Sauf que voilà, il y a juste peigné, cardé. C'est deux types de fils un peu différents.
C'était un des aspects de discussion qu'on pourra trouver à cette fête de l'ADR du 18 mai.
Alors, on n'avait pas mis le sujet de la laine.
Non, mais je veux dire, est-ce que dans les discussions, ça viendrait à en parler peut-être, ou des personnes qui auraient le désir de connaître un peu ça je ne sais pas. D'ailleurs, de votre côté, Margot, est-ce que vous organisez des rencontres ou peut-être des ouvertures qui permettent à un public de découvrir ces aspects ?
Alors, moi, je ne suis pas très douée pour l'animation grand public, mais par contre, au sein de l'ADR, depuis plusieurs années, en partenariat avec l'association Atelier Laine d'Europe et avec Marie Marquet, qui est teinturière ADI, on organise des cycles de formation sur justement la valorisation de la laine de nos troupeaux en prenant en compte en fait l'ensemble de la démarche, quoi. Comment on va changer notre regard sur le troupeau et qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes de pratiques d'élevage pour mieux valoriser la laine. On va regarder le tri de la laine au moment du chantier de tonte, l'organisation du chantier de tonte dans une perspective de valorisation de la laine et le tri de la laine, la classification. Et puis ensuite, Marie Marquet, elle apporte des éléments sur d'autres aspects de valorisation à travers les plantes tinctoriales. Ça, cette formation, elle est ouverte, en tout cas, elle est ouverte aux agriculteurs. Elle dure 7 jours, mais on va passer à 8 jours répartis sur l'année. Donc, elle est financée par des fonds Vivea pour tous ceux qui sont qui ont le statut d'agriculteur. Ouais. Mais elle est ouverte aussi aux personnes qui sont en réflexion sur leur projet ou qui sont porteurs de projet et envisagent de mettre cet atelier en place. Donc, nous, on laisse quand même de la place justement à un public autre, quoi. En devenir, on va dire.
Est-ce que la laine, vous parliez de cet aspect, de cette usine de traitement en Italie qui promeut la laine pour le luxe, est-ce que c'est une activité qui tendrait justement pour le moment à aller vers le luxe de manière à pouvoir perdurer, ou alors est-ce qu'il y aura peut-être une extension qui va pouvoir se démocratiser en quelque sorte ?
Eh bien, c'est une vraie question. Enfin, moi, je n'ai pas franchement d'appétence pour le monde du luxe et de la haute couture, quoi. C'est quand même pas, c'est quand même pas hyper compatible avec les valeurs qu'on défend.
Mais c'est bien connu que le luxe maintient justement ses métiers anciens et ce savoir-faire. Est-ce que c'est aussi une des clés à découvrir ou à développer ?
Ben oui, parce qu'il faut, c'est ce qu'il faut reconnaître au luxe, c'est que ils savent que la qualité, la vraie qualité, elle vient du savoir-faire. Et donc, c'est pour ça que ça va être eux qui vont être en capacité de maintenir des outils de production, de transformation, qui sont liés à beaucoup, avec un grand savoir-faire, donc à de l'humain, donc à de la main-d'œuvre, enfin voilà, valorisée. Après, nous, on fait transformer notre laine dans les usines de peignage de Biella. Mais finalement, elle sort pas comme un produit de luxe parce qu'elle sort au même prix, même moins cher que la laine bergère de France, par exemple. Donc, le fait de passer par des usines de qualité ne nous oblige pas, ou par des démarches de qualité ne nous oblige pas forcément à mettre derrière un prix prohibitif à nos produits.
Que dire de plus pour ce rendez-vous du 18 mai à la cave David Bottin pour cette fête de paysanne de la DR ?
Eh bien, ça vaut le coup de commencer à avoir un petit peu d'entraînement dans les mollets, là, si vous voulez danser jusque tard. Nous, on est prêts. On va commencer à préparer tout le samedi. On a fait un petit appel pour savoir s'il y avait des bénévoles qui venaient nous filer la main. Et...
C'est toujours en cours, d'ailleurs.
Oui, voilà.
Avec peut-être une prise de contact pour se signaler.
Oui, voilà, ils peuvent m'appeler, me contacter.
On peut indiquer l'adresse mail, hein, du moins.
Oui.
C'est celui de Margot.
C'est ça.
Margot.jobduval, tout attaché, @gmail.com. Je mettrai le lien de ce mail sur la page de l'émission, en tout cas. Et puis, quelles sont les prochaines festivités, on peut dire, de la DR ?
Oh ben, ça va être la prochaine. Après, on fera sûrement un concert à l'automne. Mais en attendant, le 21 septembre aussi, il y a une date à noter. Ça va être la fête paysanne de la Confédération paysanne. Et là, ce sera à Saint-Jal, dans les Baronnies. Et on tiendra sûrement un stand de crêpes avec la DR, parce que c'est quand même notre spécialité.
Margot, merci beaucoup en tout cas d'être passée sur RDWA pour nous annoncer donc ce rendez-vous du 18 mai à la cave David Bottin, décidément, et pour y découvrir de la musique. D'ailleurs, est-ce que, à votre connaissance, il existe des enregistrements de ces formations ?
Ah bah alors, la petite équipe, oui, je sais qu'il y a quelques enregistrements. Et la cadencée, c'est tout jeune. Elles viennent de sortir leur set, donc il faut aller écumer les balles en Ardèche ou dans les coins où ce petit groupe de femmes commence à exercer le set de chant polyphonique en occitan.
D'ailleurs, une question qui me revient maintenant. Quelle est la part de parité dans le monde paysan, d'ailleurs ?
Eh ben, elle était assez faible jusqu'à récemment. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de femmes dans le monde agricole, mais c'est que souvent, elle n'avait pas de statut. Et c'est en train de changer. En fait, il y a beaucoup plus d'installations féminines aujourd'hui que par le passé. Nous, on essaye d'y être attentifs. Mais ça reste un univers encore assez marqué par le masculin. D'ailleurs, le machinisme agricole est extrêmement masculin. Enfin, c'est ça, c'est qu'il y a autour tout un univers qui constitue un frein à l'émancipation féminine, quoi. Quand on fait moins d'1m60, c'est difficile de trouver un tracteur dans lequel on soit à l'aise, par exemple.
Il n'existe pas d'outil agricole en fibre de carbone. Hein.
Ah, je sais pas. Moi, je le ferais plutôt en bois.
C'est déjà lourd. Eh ben, merci beaucoup, Margot, et bonne soirée.
Merci, Yves.
Au
à bientôt.
On n'est pas bien là, paisible à la fraîche. Si, je crois que ça va d'ailleurs, plus rien ne m'empêche. Je respire tes soupirs, tes sourires, je t'écoute, je t'entends. Je pourrais me paumer sur la route, personne m'attend. Juste une note ou deux, départ de la mélodie. Je pianote dans tes yeux et quelque part le paradis. Alors je m'envole coucher dans l'herbe, à des lieux de la maison. Y'a comme un air dans l'air, suffit d'un accord, d'un son. On n'est pas bien là, paisible à la fraîche. On n'est pas bien là, dis-moi. On n'est pas bien là, calé dans ma calèche. On n'est pas bien là, dis-moi. Suffit de rien pour que je m'éveille. Parce qu'y'a que ça, parce qu'y'a que ça. Faudrait seulement que tu tendes l'oreille. Parce qu'y'a que ça. Une ritournelle que j'aspire avant de plonger dans un verre d'eau. Et si t'es prête à partir, bois la bouteille au goulot. Mais je suis plus là, évadé du bocal, je navigue là-haut. Et si je plane un peu bancal, ça reste beau, ça reste beau. On n'est pas bien là, paisible à la fraîche. On n'est pas bien là, dis-moi. On n'est pas bien là, calé dans ma calèche. On n'est pas bien là, dis-moi. Laissez filer le temps, se laisser tenter tant que t'entends les battements. Tachycardie musicale, défaler des sentiments tellement. Lassé sans penser au passé, m'attrape le cœur, le corps. Y'a qu'à danser, s'immiscer, se caresser. Encore et encore, c'est le même refrain, la même histoire qu'on vit toujours. Un air qui nous fait du bien, du rap de vie d'instant trop court. On n'est pas bien là, paisible à la fraîche. On n'est pas bien là, dis-moi. On n'est pas bien là, calé dans ma calèche. On n'est pas bien là, dis-moi.